8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Alors qu'elle est validée par la science pour ses bienfaits sur la mémoire et la concentration, comment expliquer la mauvaise réputation de la sieste dans nos sociétés de la productivité et du travailler toujours plus? Alors que les Chinois ont le droit au sommeil de midi au travail, les Italiens, les Espagnols baissent le rideau des magasins pendant les heures chaudes de l'après-midi, tandis qu'en France, c'est le grand flou juridique concernant la sieste au travail. Comment finir avec le mythe de la sieste paresseuse et flemmarde? Siester ou travailler, siester pour travailler mieux ou moins, on en cause avec vous, bien sûr, qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Sébastien Spitzer.
Bonjour Laurence.
Merci d'être avec nous, journaliste, écrivain, essayiste, enseignant à Sciences Po, auteur de Petite philosophie de la sieste, c'est aux éditions La Martinière. C'est un petit livre qui fait l'éloge de la petite farniente ou du petit farniente, notamment chez les créateurs, chez les créatifs. Hein. Ça rend créatif, la sieste.
Chez les créatifs, chez les penseurs, chez tous ceux qui la pratiquent ou qui devraient la pratiquer.
Vous êtes pratiquant vous-même.
Oui.
Nicolas Goharan, bonjour.
Bonjour Laurence.
Je pense que vous devez avoir pas mal d'atomes crochus entre vous deux. Expert du sommeil à la Fondation Jean Jaurès, auteur du livre Le sommeil malmené aux éditions de l'Aube. Alors vous dites carrément militant du sommeil.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on peut entendre dans notre modernité de temps en temps quelques critiques du sommeil, comme si c'était du temps perdu. Alors forcément, on n'est pas aussi actif que quand on est éveillé, mais en réalité, on se rend compte que ça peut être du temps gagné parce qu'on est reposé.
Et on verra avec vous que c'est aussi, pourquoi pas, une question politique, le Absolument. Sommeil. En fin d'émission, un nouvel épisode de notre série Le succès des repates, réalisé par Charlie Dupio, avec aujourd'hui le portrait de Vanessa Arago, la chimiste des eaux gabonaises. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, racontez-nous si vous êtes un siesteur ou une siesteuse, parce que ça se dit, et comment c'est perçu chez vous. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Voilà que revient de son pas paisible et mesuré Alexandre le Bienheureux. Et le sourire refleurit. Et la joie renaît.
Alexandre, lève-toi et marche !
Alexandre, il fait la peau !
Quand on assomme à des terres, on ne dort pas !
Dans ma
zone
pour la vie.
Ah oui, c'est un son d'époque, hein, 68, Alexandre le Bienheureux, bien sûr, comédie d'Yves Robert avec Philippe Noiret qui, depuis qu'il est veuf, son personnage décide de prendre des vacances pour la vie, comme il dit. Sébastien Spitzer, dans votre livre, vous parlez d'Alexandre le Bienheureux comme un lanceur d'alerte. Hein, on est en 1968, hein, il faut le rappeler.
Mais oui, c'est un film qui a été diffusé juste après les événements de mai 68. Mai 68 qui se révoltait contre ce monde capitaliste et ce film qui s'indignait face à cette logique capitaliste, à savoir de considérer le temps comme un moyen de faire plus d'argent ou de s'enrichir en permanence ou de posséder davantage, alors que lui, Alexandre Bienheureux, ce personnage, le jour où meurt sa femme, le jour où il n'a plus d'impératif de travailler, parce qu'il faut dire que dans le film, sa femme est assez tyrannique, il a décidé de faire comme la terre qu'il a cultivée toute sa vie, de se mettre en jachère.
Ne pas se perdre sa vie à la gagner, c'était d'ailleurs les slogans des étudiants de mai 68. Et en même temps, ça résonne aussi aujourd'hui hein, dans le monde post-Covid où voilà, il y a toute une jeune génération notamment qui voilà, ne veut pas forcément se sacrifier au travail. C'est politique finalement, on en parlait tout de suite, Nicolas Goharan, le sommeil.
Oui, voilà, c'est politique dans les différents sens du terme. C'est politique parce que ça dit quelque chose de notre société, de la façon qu'on a de vivre ensemble, des règles qu'on se dote, de la différence entre le travail et le non-travail. Et c'est politique parce que ça concerne aussi, ou du moins ça devrait un peu plus concerner les partis, les élus, parce que dis-moi la façon dont tu dors, je te dirai aussi qui tu es, et puis je te dirai dans quelle société tu vis.
C'est ça. Et ce qu'on se disait tout à l'heure avant d'entrer en studio, c'est vrai que la première question qu'on peut se poser les uns les autres, c'est est-ce que tu as bien dormi ?
Oui, c'est la première question qu'on pose à un être qui nous est cher, à sa femme, à son mari, à son époux, à son conjoint. C'est très important. c'est très important. C'est sur quel pied on va commencer la journée. Est-ce qu'on a été traversé, est-ce qu'on a été piégé par cette insomnie qui vient caviarder nos nuits. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un moment de répit au moment de la journée pour retrouver notre allant. Comment ça commence ?
Comment ça commence ? On parle beaucoup des troubles du sommeil, c'est mal du siècle. Vous-même, Nicolas Goharan, j'ai vu que quelque part, est-ce que vous êtes intéressé au sujet ? Parce qu'à un moment donné, on vous a diagnostiqué les fameuses apnées du sommeil.
Alors moi, je n'ai pas d'apnée du sommeil, mais effectivement, c'est un sujet qui est très important. Ouais. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Mon père est pneumologue et il me disait que juste pendant ses études de médecine, il est à la retraite maintenant, l'apnée du sommeil n'était pas un sujet, c'était complètement tu. Alors que désormais, on le sait, ce sont plusieurs millions de personnes en France qui en sont atteintes et dont beaucoup d'ailleurs, sans doute une majorité, ne le savent pas, avec des conséquences potentiellement très graves, notamment en termes par exemple de sécurité routière et tout simplement de confort de vie. L'apnée du sommeil, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de réveils dans la nuit. Vous vous réveillez le matin, vous êtes tout aussi fatigué que la veille. Donc c'est vraiment là aussi, ça fait partie de ces sujets de société. On disait que c'est politique, parce que justement, il faudrait en parler un peu plus de ces sujets-là.
Et pas que sous l'angle forcément philosophique ou autre. Vous, Sébastien Spitzer, je crois que c'est suite à un problème de dos, c'est ça que votre thérapeute vous a prescrit de faire une sieste d'une heure par jour, non ?
Alors, il y a eu plusieurs éléments. D'abord, je la connaissais un petit peu, celle-ci. La sieste, c'est une vieille amie, mais elle est devenue nécessaire après une séance, effectivement, chez mon ostéo à Pont-l'Abbé, en Bretagne. J'étais persuadé, en fait, je sortais d'un dîner avec un ami philosophe qui me disait « C'est fou, la volonté plie tout, la volonté plie tout. » Et je le regardais avec des grands yeux ébahis, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est brillant, il a tellement raison. La volonté plie tout. » Et la première chose que j'ai... les premiers échanges qu'on a eus chez cet ostéo, c'est « Vous avez accumulé plein de déboires, vous en aviez plein le dos, donc vous étiez tordu. » Et je dis « Oui, mais vous avez raison, j'ai cru que la volonté pouvait tout plier. » Et elle me regarde et me fait « Non, pas du tout, c'est pas la volonté qui plie tout, c'est la vie qui plie tout. » C'est le corps qui plie tout, c'est la vie qui plie tout d'abord. Donc on va laisser la vie reprendre la main, on va laisser votre corps se remettre à l'œuvre. Et la meilleure manière de laisser agir le corps, parfois, c'est de lui laisser la main, car notre corps est notre premier médecin. Et le temps d'une sieste notamment, ce que recommandent tous les médecins quand quand on a un problème à régler, c'est que pendant une sieste, le temps d'une sieste,
micro-sieste,
la récupération,
petite sieste,
une demi-heure, déjà une demi-heure c'est bien, le corps se met à l'œuvre pour réparer.
D'où la sieste réparatrice.
C'est ça.
La sieste, c'est la sexta hora. C'est ça, c'est la sixième heure. C'est le fameux repos du guerrier après le coup de pompe du déjeuner. En même temps, notre cerveau, vous n'êtes pas forcément spécialiste des neurosciences, mais notre cerveau est fait et programmé pour dormir cette sixième heure.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un historien américain, Kirsch, qui disait qu'à peu près jusqu'au 19e siècle, le sommeil était beaucoup plus fragmenté. C'est-à-dire que les gens, avant l'industrialisation, avant l'électricité, pouvaient se coucher à 21h, puis se réveiller à minuit, puis après avaient pendant 2, 3, 4 heures des activités, s'occuper des bêtes, jouer aux cartes, rapports sexuels, puis se rendormaient jusqu'à 6 ou 7 heures, puis se réveillaient, et puis avaient notamment des activités dans les champs. Donc on dormait en 2 ou 3 fois. Et quelque part, c'était plus logique. Et on voit par exemple les mammifères, on voit bien le tigre après avoir croqué une antilope, il a tendance un peu à se reposer. Et quelque part, ce sommeil plus fractionné, donc la sieste, ce temps de repos dans l'après-midi, il serait finalement plus logique qu'il ne peut paraître au premier abord.
Oui, c'est ça.
Oui, il y a une aberration en fait de ce sommeil d'une traite au 19e siècle, c'est-à-dire que, effectivement, j'ai lu des travaux là-dessus. Avec l'arrivée de l'électricité, avec l'ouverture des usines, la lumière en pleine nuit, il a fallu qu'on trouve un moyen pour faire en sorte que les ouvriers, les ouvrières, puissent être plus opérants toute la journée. Donc, on a rallongé le temps. Cette nuit, on l'a fusionné pour qu'elle soit d'un seul tenant, en préconisant une longue nuit de 6, 7, voire 8 heures. Oubliant qu'au fond de nous, on avait des cycles circadiens comme ça, on était naturellement fait pour se réveiller, se rendormir, se réveiller à nouveau, se rendormir encore.
Ouais, sauf que là, depuis l'arrivée de l'électricité, il y a eu l'arrivée de la lumière bleue des écrans. Et là, on est dans un sommeil encore plus fractionné, mais pas pour les mêmes raisons qu'avant, Nicolas Goharan.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le téléphone portable... Alors effectivement, il y a la lumière bleue qui perturbe les cycles d'endormissement, parce que là aussi, on est normalement des animaux qui fonctionnent beaucoup à la lumière du jour. Et puis, il y a la sollicitation même du téléphone portable, les tweets qu'on envoie. C'est, je ne sais plus si ça s'appelle des tweets, mais en tout cas, les messages auxquels on répond, on est sursollicité en permanence. Donc, à la fois pour des raisons de luminosité, pour des raisons d'attention, ce téléphone portable, c'est tout sauf un allié, et donc un activiste de sommeil, celui-là.
C'est ça. Je vous propose d'écouter les notes vocales que nous ont laissées des voisins siesteurs.
Bonjour, 8 milliards de voisins. Je m'appelle Juan José et j'habite à Buenos Aires. Et j'ai l'habitude de faire une pause à midi et de faire une sieste après le déjeuner. Je me repose pendant environ 45 minutes et c'est un moyen de rendre la journée plus productive car je me réveille plus actif et plus éveillé. À la bientôt.
Je suis parmi les gens qui font les siestes régulièrement depuis mon jeune âge. J'ai commencé à observer les siestes depuis que j'étais à l'école secondaire. Et chaque fois lorsque je revenais de l'école, je prenais une heure ou deux heures de temps pour siester et pendant la journée. Et lorsque je me réveillais, je me retrouvais en forme et ça pouvait continuer jusqu'au soir. Et depuis que j'ai atteint l'âge mature, je continuais à observer ces siestes à la maison. Et maintenant, je le faisais pas tous les jours, mais je le faisais chaque dimanche après les cultes ou bien après la messe. Et à 13h, je prends mon sieste jusqu'à 15h, 15h30. Et à 16h, je me prépare pour aller pratiquer mon sport. Et c'est ça ma vie quotidienne. C'est vraiment important pour la santé et pour l'équilibre physique.
Bonjour, 8 milliards de voisins. Oh, mais j'aime la sieste. Hein. La sieste permet de me reposer, m'évader dans ma couette et dans mes draps. Donc, c'est si important pour récupérer, même pour un quart d'heure ou une demi-heure. C'est toujours nécessaire. Merci.
Merci beaucoup à vous, Altienne de Brazzaville. On sent la gourmandise, hein, le plaisir de la sieste hein, chez Altienne. C'est Jean-Pierre de Kinshasa, un rituel après la messe et avant le sport. À chacun son goût de la sieste. Mais voilà, pour certains, être plus productif, plus rentable, être mieux dans sa tête, dans sa santé. Qu'est-ce que ça vous suggère, Sébastien Spitzer
les... Tout ça.
Tout ça.
Tout ça. Et d'abord, le ton de cette dame est délicieux. Oh, que j'aime la sieste.
Oui.
Et oh, que je suis d'accord avec elle. Oh, que je suis d'accord avec elle. La sieste, c'est ce petit moment, c'est cette parenthèse, ce moment de suspension où, en fait, on laisse opérer tellement de choses. Le corps qui vous répare et l'esprit aussi. Je l'ai éprouvé quand j'avais, pendant le Covid, par exemple. J'avais deux projets en même temps. Un premier le matin, un deuxième l'après-midi. Et j'ai remarqué qu'en faisant la sieste, mon esprit se remettait à zéro. C'est comme si mon inconscient, j'appuyais sur le bouton reset pour mon inconscient et que toutes les choses importantes restaient et le futile disparaissait dans les limbes de la mémoire. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai utilisé cette sieste quotidiennement pendant tout le Covid pour être beaucoup plus opérant et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, j'étais plus frais, j'étais plus alerte, plus inspiré aussi et mieux préparé.
Il faut purger un peu le disque dur de l'ordinateur du cerveau aussi, c'est votre avis Nicolas Goharan?
Oui, c'est ça, je parlais de reboot, mais vous avez dit reset, c'est un peu la même chose. Mais c'est quelque chose d'ailleurs, on entend des auditeurs, mais aussi des responsables politiques. Je pense quelqu'un comme Jacques Chirac, par exemple, était un partisan, je ne sais pas si vous en parlez, était un grand partisan.
Comment ne pas le citer?
Comment ne pas le citer? C'est notre activiste du sommeil numéro 1.
Il
insistait sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, les responsables politiques de manière générale, Bill Clinton, par exemple, disait que les principales erreurs qu'il avait faites, l'ancien président américain, c'est quand il était fatigué. Donc on s'aperçoit aussi de l'importance et du plaisir hein, de la sieste, mais aussi de son importance pour prendre tout simplement des bonnes décisions.
Moi, je vais vous dire, franchement, vous parliez de la politique tout à l'heure et de Jacques Chirac à l'instant, mais en fait, les seuls qui ne dorment jamais, c'est les tyrans. C'est les dictateurs. Parce qu'ils savent que si, pendant une fraction de seconde, ils sont inattentifs, ça peut leur coûter très très cher. Parce qu'ils savent qu'ils tiennent leur pouvoir et la société du fait qu'ils leur font peur. Et j'en veux pour preuve cet exemple de Staline.
Absolument.
Qui prétendait tout le temps, laissait allumer la fenêtre de son bureau au Kremlin pour laisser croire à son peuple qu'il était toujours là, qu'il rôdait, qu'il était toujours éveillé.
Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas forcément des tyrans, mais on voit...
Oui, parce que, alors, pardon, mais en ce moment, il y a quand même les présidents Macron ou Trump qui revendiquent d'être des petits dormeurs à travailler la nuit sur leurs dossiers, etc. Qu'est-ce que ça dit aussi ? Parce que là, on est loin de Jacques Chirac, hein, mais qu'est-ce que ça dit de nos rapports aux politiques par rapport à ce temps perdu ou pas ? C'est uniquement lié au capitalisme ?
Alors, il y a plusieurs choses. Le cas d'Emmanuel Macron, on dit, certains médecins disent qu'à peu près 1% de la population, pour des raisons génétiques, a besoin de dormir...
3 heures ?
4 heures. Donc, visiblement, Emmanuel Macron en fait partie. Et après, il y a une deuxième chose, mais ça fait un peu écho à ce que Sébastien vient de dire. C'est-à-dire que vous avez aussi, de la part de responsables politiques, un discours qui valorise le grignotage du sommeil. Et effectivement, Donald Trump est très fier de dire qu'il dort 4-5 heures par nuit. Je ne sais pas ce qu'il veut montrer. Enfin, si je sais ce qu'il veut montrer, à quel point il n'en a pas besoin et à quel point c'est un surhomme. On peut avoir quelques doutes quand même.
À propos des surhommes, moi, j'ai adoré une citation de Romain Gary. Qui disait « Dormir du sommeil du juste, mais c'est quelle ânerie. Il n'y a que les injustes qui arrivent à dormir tranquillement.
» C'est pas mal.
Et ça revient avec... Ça revient à évoquer l'idée du tyran.
Ouais. Pour t'amener juste un peu, avant d'écouter un peu de musique, mais sur les politiques, Nicolas Goaran, vous avez été longtemps attaché parlementaire, hein, donc vous les connaissez bien, hein, ces animaux politiques, et notamment les députés à l'Assemblée nationale, où, pour le coup, les journées sont longues. C'est vrai que des séances peuvent se terminer à minuit, 1h du matin. Vrai problème de sommeil, hein, chez les députés, avec peut-être aussi des conséquences, hein, d'ailleurs.
Alors oui, il peut y avoir des conséquences. Quand on voit les députés un peu fatigués dans l'hémicycle, on se dit, bah dis donc, ils sont pas très... Non, en fait, c'est parce que souvent, il est tard dans la nuit, il peut être minuit, 1h, 2h du matin. Et je vais vous raconter cette anecdote. Effectivement, je travaillais pour un député, c'était la période budgétaire, et des dizaines de députés se couchaient tard le soir. Et le matin, on arrivait au travail, et le principal sujet de conversation, c'était pas les impôts qu'on avait baissés ou augmentés, mais c'était « est-ce que tu as bien dormi ?» Ce qui fait écho d'ailleurs à ce que disait Sébastien. Et dans le temple de la démocratie française, on se rend compte que ce sommeil, en fait, est à la fois partout et nulle part. C'est-à-dire qu'on parle de très grands sujets, mais en réalité, c'est souvent plus prosaïque, les préoccupations des gens, et notamment des députés.
Sommeil pas suffisamment pris au sérieux peut-être par nos politiques. On parlera aussi de cette sieste créative chez les artistes également, et notre rapport au temps, on va voir que c'est aussi très culturel, juste après le franco-camerounais Pat Kalla et le super Mojo avec Cabossé sur RFI.
Dites-lui là-haut qu'on s'en fout, nana. Tu crois vraiment qu'on va bosser jusqu'à ce qu'on soit cabossé? On veut pas vieillir au boulot, mais mettre les pieds dans l'eau.
On va pas bosser.
Ah ouais.
On ne fait rien dans la vie si on est couché.
Ça fait du bien quand même.
Ça fait du bien quand même.
Montez-moi. Ma. Ça fait du bien quand même.
Ça fait du bien quand même. On ne fait rien dans la vie si on est couché.
se coucher. Ça fait du bien quand même.
Bosser ou pas bosser, le franco-camerounais Pat Kala et le super Mojo, titre à retrouver sur la playlist de RFI. Je voyais que ça faisait sourire nos invités.
Moi, c'est excellent.
C'est bien, hein, ouais. Ça balance et ça va très bien avec notre sujet du jour. On parle du droit au repos, à la sieste, pourquoi ça reste encore mal vu dans nos sociétés, de la productivité avec Sébastien Spitzer, écrivain, essayiste, auteur de Petite philosophie de la sieste aux éditions de La Martinière, comme vous me disiez, un pratiquant. Et on a un militant du sommeil, Nicolas Goharan, expert du sommeil à la Fondation Jean Jaurès et auteur du livre Le sommeil malmené, c'est aux éditions de l'Aube. On a un appel au 33 7 64 45 51 41. C'est Outanda qui nous appelle de Kinshasa en RDC. Bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour les voisins.
Bonjour à vous, chers voisins. Alors vous, il paraît que vous êtes un adepte de la sieste depuis que vous êtes tout petit, hein, c'est ça ? Depuis que vous êtes gamin. Racontez-nous.
Depuis que je suis gamin, je suis adepte de la sieste. C'est vrai que c'est le cas de tous les bébés, mais moi particulièrement, on me raconte qu'à 3 ans, j'étais déjà très fan et j'ai même des brins de souvenirs pour cause, c'est que moi, je faisais la sieste pour pouvoir profiter des appuis-têtes. Vous savez, ces fameux objets en bois, centenaires, certains diraient même millénaires.
Oui.
Donc, nous dormons dans des lits, comme tout le monde, mais particulièrement quand c'est l'heure de la sieste, je pouvais emprunter des appuis-têtes comme ça, et tout sculpté, avec différentes couleurs, différentes formes et tout. Et c'était quelque chose pour moi et je faisais la sieste pour ça. Aujourd'hui encore, j'ai fait ça.
Juste pour avoir les appuis-têtes en bois, c'est ça ?
Oui.
Parce que c'est quoi ?
Oui,
c'est le bel objet, c'est une tradition hein, qui remonte à longtemps hein, chez vous, dans la famille. Qu'est-ce qu'il vous procure, cet objet, alors ?
Cet objet me procure une sensation de connexion, une sensation d'éternité, parce que ici en Afrique centrale et australe, jadis, en lieu de place d'oreiller, les gens utilisaient des appuis-têtes pour protéger leur coiffure, pour éloigner leur tête du sol quand il fallait dormir. Mais moi, déjà depuis tout petit, tout le monde me dit que j'étais fasciné par ces choses. Aujourd'hui encore, je le suis.
Oui.
Aujourd'hui encore, quand je suis à la Fondation, je fais ma sieste avec des appuis-têtes en bois comme ça. Et voilà, et ça me passionne à un tel point. D'ailleurs, j'ai profité pour poser la question, c'est quoi les traditions ailleurs pour la sieste?
Ah, c'est quoi les traditions ailleurs ? Voilà. Alors, il y en a plein. Hein. Alors, en France, on va peut-être en parler aussi. Mais déjà, restez avec nous, hein, Outanda. Je vais faire réagir nos invités, Sébastien Spitzer. Voilà, la symbolique, où il y a l'impression d'être connecté comme ça par l'objet, cet appui-tête en bois. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, j'ai adoré ce que vous venez de dire avec ce sentiment d'éternité. Effectivement. Oui, j'écoute ?
Oui, j'écoute, moi.
Ok, ce sentiment d'éternité, je trouve ça très fort, très beau. Vous êtes relié au sol et puis en suspension aussi entre la terre et le ciel, juste avec cet appui-tête, qui ressemble aussi au temple japonais, hein, quand on se le figure un peu. Vous savez, ces portiques là, japonais qui ont la même forme que ces appui-têtes.
Nicolas Goharan.
Oui, moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce que vous dites, c'est le côté rituel. Et la sieste est aussi une pourvoyeuse de rituels. Mmh. On a notre petit moment, on a notre petit lit, on peut avoir notre oreiller, notre façon aussi de nous coucher. Et ça participe aussi de notre petite sphère intime, la sieste. C'est ça aussi que moi, j'ai retenu dans ce que vous avez dit, monsieur.
Et moi, la question que je voulais vous poser, Outanda, parce qu'on voulait parler justement, vous m'avez dit comment se fait la sieste ailleurs, avant ou après un repas, c'est souvent plutôt après d'ailleurs, pour les questions a priori. Mais,
Oui, en fait, comme je disais tantôt, ma question c'était un peu de la curiosité. De temps en temps, il m'arrive de lire, mais puisque je suis là avec vous autres et que tout le monde est connecté,
oui. Je
voudrais bien savoir c'est quoi la tradition des autres. Est-ce que c'est avant le repas? Est-ce que c'est après le repas? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que les gens font? C'est ça ma curiosité, la grande question. C'est quoi l'objet qu'ils utilisent pour leur sieste? Parce que moi, c'est seulement l'appui-tête.
C'est seulement l'appui-tête. Alors, je ne sais pas si vous avez un appui-tête ou pas, mais c'est vrai que c'est très culturel quand même, le rapport au temps et à la sieste, au sommeil aussi. On parlait tout à l'heure avec le réchauffement climatique, les heures chaudes, l'été, dans les pays d'Europe du Sud, Italie, Espagne. Voilà, on baisse le rideau aussi à ces heures-ci.
Oui, parce qu'il fait trop chaud pour travailler.
Ça me rappelle une chanson.
Oui, moi aussi, en disant, mais après, chacun pratique la sieste un peu comme il l'entend. Je sais que les nutritionnistes déconseillent de faire la sieste après le repas parce que c'est en fait de la matière, de la graisse. Hélas, moi, je ne pratique la sieste qu'après le repas. Donc, je fais beaucoup de graisse.
mais bon,
après,
ça va.
Comme Outanda, après, je vais aller faire du sport aussi, après. Mais oui. Un bras suffit, une main repliée derrière la nuque. Mais l'histoire des appuis-têtes, là, m'intéresse beaucoup, parce que est-ce que vous en héritez de père en fils, de mère en fille, ou est-ce chacun a le sien?
Bon, chacun peut avoir ses appuis-têtes à lui, on peut aussi en hériter, mais pour mon cas particulièrement, c'est une fixation sur les appuis-têtes que nous héritons depuis des générations et qui sont gardées par un gardien du patrimoine, et l'un des grands-pères de notre communauté, à qui on confie ses appuis-têtes, à qui on confie les épées qui ont été utilisées dans des rituels, dans des cérémonies, dans des fêtes. On confie des chasse-mouches, on confie des peaux de bêtes ou encore des bouts de tissus, ou carrément des habits, des objets, des coris, des coquillages, des perles, beaucoup de choses comme ça. Et tout le monde peut en profiter. C'est un peu comme quand on emprunte des livres à la bibliothèque.
Ah oui.
Mais après, chacun peut avoir son appui-têtes.
Mais ça permet une communion.
Chacun peut les léguer à son enfant.
Ça permet une communion spirituelle aussi?
Oh, disons que déjà, c'est un devoir des mémoires. Ça nous permet d'avoir une mémoire collective. Ça nous permet d'être conscients de ce que nous sommes et de rester unis. Déjà, il y a ça. Après, il y a des ceux qui sont très spirituels et d'autres qui ne sont pas spirituels. Chacun choisit sa vie.
En tout cas, joli témoignage. Hein. Merci beaucoup, Tanda. C'est à quelle heure la prochaine sieste là, pour vous là? Il est quelle heure là, à Kinshasa?
Là, à Kinshasa, il est 11h. Il est 11h.
Bon, c'est un peu tôt là. Oui.
Ouais, c'est un peu tôt. Mais en tout cas, vers midi et aller au plus tard vers 14h. Puisque je suis à la fondation, je ferme ma sieste.
D'accord, ok. Bon, bonne sieste en tout cas. Merci beaucoup. Belle journée du côté de Kinshasa. Et je propose d'écouter d'autres notes vocales. Là, c'est une voisine. C'est une voisine siesteuse.
Bonjour, je m'appelle Anne et j'ai 29 ans. Je suis camerounaise. J'avais l'habitude de faire la sieste partout et à tout moment quand j'étais plus jeune. C'était entre la période de 16 à 20 ans. Quand 12 heures sonnaient pendant cette période, c'est comme si mon cerveau envoyait un signal à tout mon système organique et tout s'éteignait. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais obligée de me coucher, de m'endormir, de faire une petite sieste, même si c'est 30 minutes. Et ce n'est qu'après cette période que je pouvais me réveiller et continuer à vaquer à mes occupations. Et le plus souvent, c'était en classe, même à l'université. Tellement j'étais habituée à le faire, même les anciens me comprenaient. Et ce qui était bien, c'est qu'après 30 minutes de sieste, lorsque je me réveillais, je ressentais beaucoup d'énergie en moi. C'est comme si j'avais récupéré et je pouvais continuer à vaquer mes occupations sans difficulté.
Bonjour, je suis Adam Bertrand, enseignant depuis Malika Plage à Dakar au Sénégal. La sieste, j'en suis complètement à court. À midi, à la grande pause, je ferme la porte de ma classe. Je commence tout de suite ma sieste sur un petit matelas offert par mon école. et je m'endors sans tarder. Pour me réveiller 30 minutes plus tard, et c'est fini. J'ai récupéré pour l'après-midi. Je prends le déjeuner tranquillement. Et à 15h, j'attends en forme le retour des élèves pour la reprise des cours. C'est génial.
C'est génial. Merci Adama du Sénégal, un enseignant hein, qui fait la sieste tous les jours dans sa classe. Ça nous amène aussi à la place de la sieste au travail. Alors en France, parlons-en, Nicolas Guaran, vous qui êtes un militant de la sieste, il y a encore tout un flou juridique hein, dans les entreprises, même si normalement on est censé avoir des salles de repos, mais ça reste du cas par cas, hein, c'est pas totalement encadré en fait. Hein.
Oui, c'est un petit peu du bricolage. Dans le code du travail, par exemple, hein, je donne un exemple, tous les ans, une entreprise doit discuter de la politique de congés payés, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la politique salariale. Il y a comme ça une dizaine de sujets très importants, mais ne figure pas la question du droit au repos. Mmh. Alors que finalement, on l'entend, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, notamment dans les entreprises où on commence tôt. Hein. Par exemple, les gens qui travaillent dans la restauration ou à Rungis, on peut commencer très tôt le matin, qu'on prévoit comme ça des salles de repos et de sieste, ça peut s'entendre. Et puis vous avez des publics comme les jeunes parents aussi, les auditeurs qui nous écoutent savent de quoi je parle. Quand on a dû changer les couches et donner le biberon toute la nuit, ce serait aussi logique qu'on ait comme ça un temps un peu dédié et prévu pour pouvoir se reposer dans l'après-midi.
On a pas mal de témoignages écrits d'ailleurs d'auditrices maman. Il y a Carmine à Cotonou au Bénin qui dit « Malheureusement, les femmes n'ont pas le temps de faire la sieste. Elles travaillent presque 24 heures sur 24. Ornella au Congo, impossible de faire la sieste avec mon boulot à plein temps de mère, même s'il m'arrive parfois de m'endormir sur une chaise. » Alors, je ne sais pas si la sieste est genrée ou pas. Dans votre livre, Sébastien Spitzer, forcément, vous parlez de la Chine. Là-bas, la sieste est inscrite dans la loi. On parle du sommeil de midi. Les Chinois y ont droit. Après déjeuner, ça dure quoi? Genre 15-30 minutes. Au Japon également. Alors, ce rapport au temps culturel...
Ce rapport au temps
en même
culturel.
Temps, ce sont des siestes pour être plus productif. Hein, vous qui célébrez la sieste, l'art de l'inutile, là, on n'est pas dans l'inutile. Hein.
C'est plus que ça. C'est plus qu'une approche utilitaire. Dans ce livre, moi, j'ai voulu avoir une approche philosophique de la sieste, petite philosophie de la sieste. Et c'est vrai que la constitution chinoise oblige les Chinois à un moment de repos entre midi et deux. Mais c'est pas simplement pour être plus productif, c'est pas seulement pour être plus productif, c'est aussi pour se réinscrire dans le flux cosmique. Alors attention, qu'est-ce que je suis en train de dire? Où est-ce qu'on part? C'est l'esprit du Tao. Mm. Vous connaissez le Tao, c'est toute l'Asie, c'est une philosophie extrêmement importante et c'est comment je m'inscris dans l'énergie générale. Si je lutte, si je suis en but contre le mouvement du temps, parce que le temps a un mouvement, je risque de m'épuiser, je risque d'y perdre des forces. En revanche, si je me laisse emporter par ce courant-là, tout en restant sous contrôle, je peux en bénéficier. Et ce moment de sieste, ce moment de repos, répond autant à une logique productiviste qu'à une logique philosophique.
Objectif productiviste et philosophique, la sieste, même en Chine, où on sait qu'on travaille quand même beaucoup, au Japon, aux États-Unis aussi. Quel est votre regard, Nicolas Guaran?
Oui, quand on dit productivisme, ça renvoie aussi au capitalisme. Oui. Et on voit bien cette dialectique, cette opposition entre la sieste, à la fois, c'est pour produire plus, en même temps, c'est pour se reposer. Il y a la question du temps de travail. Dans le même temps, forcément, quand on sieste, sauf si on est très fort, on ne travaille pas. Donc on voit, c'est toute la complexité et la beauté du sujet aussi, qui dit beaucoup de choses de notre société.
Vous aviez créé avec votre père, vous avez lancé un guide du sommeil, non, c'est ça, un guide du sommeil pour réveiller un petit peu nos élus, nos décideurs. J'avais vu ça quelque part. Non?
Alors, j'étais un peu lobbyiste du sommeil. où effectivement, j'ai essayé de sensibiliser quelques élus sur le sujet. Ça n'a pas vraiment pris.
C'est étonnant, non?
Oui, c'est surtout dommage. Mais est-ce qu'en fait, les gens ne comprennent pas les limites? C'est ce que disait Sébastien. On prend notre coude, on s'endort. Donc, c'est simple aussi. Est-ce que vraiment la politique, là aussi, est-ce qu'on doit légiférer sur le sujet? La question peut se poser. Mais enfin, en tout cas, ça montre que la sieste, en particulier le sommeil en général, c'est un joli champ d'exploration.
Faut légiférer ou pas?
Vous me demandez s'il faut légiférer.
Oui, alors un philosophe, je ne suis pas sûr que...
Alors, est-ce qu'il faut légiférer sur tout? Non, il faut, en tout cas, il faut... De toute façon, dès qu'on dit il faut se méfier de la suite. Il faut, attention, Mais il me semble, je ne dirais pas il faut, il me semble que l'excès de législation vient tuer l'inspiration. Il me semble que trop de lois tuent la vérité. Il me semble que tous ces « il faut » font beaucoup de mal à notre essence, à notre humanité. D'expérience, il m'est apparu que la sieste était bienfaitrice, que c'était un moment bienfaisant pour nous, et qu'il était peut-être temps de la dédiaboliser, de montrer que ce moment où on perd conscience, cette somnolence, n'est pas une faute, n'est pas un manque d'énergie, mais au contraire, une réponse que nous trouvons naturellement à l'appel de notre corps, qui ensuite en sortira plus fort.
Vous citez, on ne peut pas ne pas les évoquer dans votre livre, La petite philosophie de la sieste, on parle beaucoup là des élus, des politiques, autres, mais les artistes, les créateurs, les philosophes, les scientifiques, les Albert Einstein, Léonard de Vinci, Dali, tous des micro-siesteurs. Et vraiment, c'est vraiment vrai cette histoire du physicien Newton qui n'aurait pas trouvé forcément sa théorie s'il n'avait pas siesté.
Alors Newton, tout le monde connaît l'histoire. Newton, hein, ce jeune savant brillantissime qui va passer quelques jours chez ses parents hein, dans l'est de l'Angleterre et qui somnole au pied d'un pommier. Et c'est en voyant cette pomme tomber d'un arbre qu'il a la révélation, son eureka à lui, son épiphanie. Il comprend qu'il y a une loi qui attire les corps vers la Terre, la loi de la gravité. Et est-ce que c'est une histoire, est-ce que c'est vraiment vrai? Voilà, telle était l'autre question. Un contemporain de Newton, auquel Newton s'est confié, rapporte cette histoire. Donc, elle a été racontée de son vivant, sans doute avec son accord. Et je veux bien croire qu'elle soit très vraisemblable. Il y a un grand philosophe et mathématicien français qui s'appelait Poincaré. Et Poincaré a beaucoup travaillé sur les mathématiques. Il a pratiqué les mathématiques et s'est interrogé sur les mathématiques. Et il a expérimenté le fait qu'on peut essayer de résoudre une équation complexe. On bute dessus, on réfléchit, on travaille, mais on ne trouve pas la solution. Et puis, à un moment, vient le pas de côté. Ce petit moment où vous pensez à autre chose. Ce petit moment où vous laissez reposer votre inconscient. Et il a remarqué que très souvent, l'inspiration vient après ce moment-là. Une fois qu'on a laissé les choses se métaboliser, une fois qu'on a laissé les problèmes se mêler dans les méandres de notre inconscient. On fait des associations, on fait des ponts, on trouve des solutions qui n'étaient pas tout à fait logiques, qui dépassaient encore les mathématiques, qui dépassaient ce qu'on avait établi jusqu'à présent. Et parfois, on peut trouver la solution.
Pour terminer, vous, Nicolas Guaran, le militant du sommeil, il faut que les autorités publiques prennent au sérieux ce temps-là.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à la frontière entre l'intime et la société. C'est à la fois quelque chose, quand on dort, Sébastien en parlait, on est tout seul ou on est à deux, rarement plus. Et dans le même temps, on dort tous en même temps, fondamentalement. Et notre vie de société, elle est basée implicitement sur ce temps qui peut pas être compressé. Et puis peut-être que j'aimerais juste finir, parce qu'on parlait d'artistes, Marcel Proust, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et puis, je me permets de rappeler la première phrase de La recherche du temps perdu. « Longtemps, je me suis couché de bonheur. »
Et bien, on terminera avec forcément cette jolie phrase. Merci à tous les deux. Merci Sébastien Spitzer. Votre livre, auteur de La petite philosophie de la sieste, est aux éditions La Martinière. Merci à vous. Et puis Nicolas Guaran, Le sommeil malmené, c'était aux éditions de l'Aube. Merci messieurs.
Bon, merci.
Un peu trop tôt pour la sieste. Hein, mais... Bonne sieste future. Allez, à suivre un nouvel épisode de notre série Le succès des repas, réalisé par Charlie Dupiot. C'est juste après la malawite Code Sangala avec ce titre Oumu Wouzé. Sur Ravi. Thank you.
Tegun Fisulo. I am Betigun Disangala. My son and Tengel restaurant, Yaba Mamba. I mean, you pray your tula. Tomaso, you would send Ugabanda Gumutula, Kuyati Wabanji. Real Mamu Fila. You wait.
Et ses codes Sangala sur RFI.
Le succès des repates.
On ne peut pas rester à distance et vouloir que les choses bougent sans que nous on fasse quelque chose pour qu'elles bougent.
C'est très important de créer des emplois localement.
Ici, c'est compliqué. J'ai fermé mes oreilles tout simplement et je me suis lancé.
Nouvel épisode de notre série Le succès des repates, avec aujourd'hui le portrait de Vanessa Arago, qui est revenue au Gabon il y a 10 ans. Fille d'un père ingénieur en pétrochimie, elle a lancé en 2018 son laboratoire Omilab à Libreville. Notre reporter Charlie Dupiau l'a rencontrée alors que Vanessa et son équipe s'apprêtent à mener une analyse.
Donc il faut d'abord enfiler une blouse.
Hop, une blouse blanche.
Donc là nous voilà dans votre laboratoire, qui est composé d'une grande pièce en longueur.
Voilà, ici c'est la partie physico-chimie. Donc nous analysons les eaux, mais aussi les sols et les dérivés de produits pétroliers.
Et là, par exemple, c'est de l'eau que vous allez analyser ?
Exactement, c'est un client qui souhaite déterminer la qualité physico-chimique de son eau.
Quel type d'entreprise ?
C'est une entreprise minière, voilà. Les miniers, les forestiers, les pétroliers ont des bases vie à l'intérieur du pays.
Des bases dans lesquelles les employés vivent ?
Exactement, c'est ça. Et à l'intérieur du Gabon, en brousse, il n'y a pas d'eau courante. Et nos clients font des forages où ils captent des eaux de rivière et ils traitent ces eaux-là et ils les distribuent pour des usages domestiques, laver le linge, ce genre de choses. Ils ont besoin de déterminer quelle est la qualité physico-chimique de cette eau.
Alors, on se rapproche. Vous avez donc deux techniciennes qui sont en train de manipuler.
Voilà, c'est ça. Elles vont procéder à l'analyse. Et on va doser le chlorure qu'il y a dans l'eau.
Et là, s'il y a trop de chlorure dans l'eau, par exemple, quelles conséquences ça peut avoir ?
Déjà, une eau salée est corrosive.
Donc, elle abîme les tuyaux.
Bien sûr, elle abîme les tuyaux. Ça peut provoquer de la rouille.
Là, vous mettez de l'eau à analyser dans un petit bécher ?
Oui, c'est l'échantillon. J'ai besoin de 20 millilitres.
Je suis arrivée au Gabon le 1er mars 2015, donc avec mes deux valises de 23 kilos. Et toute ma vie dans ces valises-là. Et voilà, c'était un nouveau départ. Mais en arrivant, il a fallu que je me réadapte aux réalités locales. Et j'en ai été la première surprise parce que, en fait, je suis gabonaise. Et pour moi, je rentrais chez moi, dans mon pays. Au Gabon, il y a beaucoup d'ethnies. Hein, et moi, je suis issue de l'ethnie majoritaire, c'est l'ethnie Fan. Et même quand on rentre dans des bureaux, par exemple, parce qu'il a fallu que je mette en place mon laboratoire. Et moi, en tant que Fan, par exemple, si je rencontrais quelqu'un qui était Fan aussi, qui me demande d'où tu viens ? Tu es Fan, d'accord, mais tu es de quelle tribu Fan ? Et que je suis, par exemple, incapable de dire de quelle tribu je viens, on est tout de suite marginalisé et on est mis de côté. Rien que ces petits détails-là peuvent vraiment impacter très fort le quotidien. Et donc, j'ai dû me réapproprier ma culture. L'une des premières choses que j'ai dû faire en revenant au Gabon, c'est d'apprendre, réapprendre à parler le fang, par exemple. J'étais dans un lycée public, donc j'ai obtenu mon bac au lycée national Léon-Ba. Et à cette époque-là, il y avait des conventions entre des universités françaises et l'État gabonais. C'est dans ce cadre-là, j'ai été présélectionnée. Et une fois mon bac obtenu, j'ai été envoyée avec une bourse en poche sur Orléans faire des études de chimie. Après, j'ai commencé à travailler pour le BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière. Et ensuite, j'ai été dans un bureau d'ingénierie. On faisait des diagnostics environnementaux sur l'état des sols. Avant construction, par exemple, avant qu'un bâtiment ne soit construit, il faut faire un état du milieu. Mais je sais pas, je ressentais cette nostalgie. Et c'est, à un moment donné, cette envie de rentrer au pays est devenue viscérale. Et pourtant, avec mon mari, parce que j'étais déjà mariée à cette époque-là, quand j'ai commencé à travailler, j'appartiens à un couple franco-gabonais, un couple mixte. Mon mari, il est français, il est blanc, comme ils disent ici. On venait au Gabon en vacances. Mais venir en vacances, c'est pas la même chose que d'y vivre. Donc, on a commencé sérieusement à mûrir le projet. Pour moi, je pense que le plus difficile, ça a été de trouver de la main-d'œuvre qualifiée, bon marché. Et c'est pas comme si j'ouvrais une épicerie, un laboratoire d'analyse. Il faut des procédures plutôt strictes. Et quand on commence, on n'a pas forcément les moyens de payer un technicien très cher ou un ingénieur comme moi. D'ailleurs, moi-même, j'étais longtemps sous-payée. Du coup, j'ai investi plus sur l'humain. J'ai recherché des personnes ponctuelles, travailleuses, rigoureuses. Et je me suis basée sur ces qualités-là pour ensuite leur apprendre le métier.
Vous avez combien de personnes là dans l'équipe ?
Nous sommes 9. Et moi, dans mon secteur d'activité, on n'est pas nombreux aussi. Il doit y avoir à peine 2 ou 3 laboratoires privés, comme le mien au Gabon. Donc, quand je viens parler de mon domaine technique, je bafouille pas. Je sais de quoi je parle, voilà. Et ça, c'est parce que je suis repate que je peux prétendre à ça. Quand j'arrive dans des bureaux ici et je viens avec tout mon bagage, mon savoir-faire, j'apporte un plus. Donc, c'est clairement une force pour moi.
Le succès des repas avec Vanessa Arago, la chimiste des eaux gabonaises au micro de Charlie Dupio. Série, bien sûr, à réécouter sur notre appli Pure Radio.
8 milliards de voisins.
C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Même si géographiquement on est effectivement dispersés,
on existe ensemble.
8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Inès Yazidi, Delphine Cachin et Thibaut Matta. On se retrouve demain à la même heure pour une émission consacrée à la gestion des déchets ménagers sur le continent africain face à l'urbanisation galopante et les nouvelles habitudes de consommation. C'est un véritable enjeu sanitaire, économique et environnemental pour les villes africaines. Quel rôle pour les pouvoirs publics ? Et si vous êtes concerné par le sujet, on attend bien sûr vos témoignages au 33 7 64 45 51 41 à suivre dans quelques instants le journal sur RFI.